Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, dans notre émission, il sera question d'économie, mais pas n'importe laquelle. Nous allons en effet parler d'économie concrète, d'économie réelle. Nous avons la chance en effet de recevoir un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui la connaît par la pratique. Vous l'avez certainement compris, nous avons la chance de recevoir dans notre studio Yvon Guettaz. Monsieur, bonjour, on ne vous présente plus à nos auditeurs, mais je le rappelle toutefois, vous êtes créateur de la société Radial, ancien président du CNPF, c'est-à-dire l'ancêtre de l'actuel MEDEF, et vous êtes aussi, et j'allais dire surtout depuis toujours, un défenseur enthousiaste non seulement de l'entreprise, mais de l'esprit d'entreprise. Et c'est précisément la raison pour laquelle vous avez, j'imagine, signé ce nouvel ouvrage, Économiquement Vôtre, paru aux éditions du Cherche Midi. Économiquement Vôtre est un livre constellé de saillies que l'auteur nomme lui-même avec une certaine espièglerie des gatazismes et des gatazeries. Il nous expliquera ce dont il s'agit. Ce que nous en retenons d'emblée, c'est que dans un monde des affaires, dans un monde économique volontiers dominé par la technocratie où le règne un peu terne et gris des experts, Yvon Guettaz fait souffler un vent frais, une brise de spontanéité et, je le disais, d'enthousiasme. Mais il ne faut pas s'y tromper. Pour l'auteur, l'humour, le style, le détachement n'empêchent pas le sérieux. Ils n'empêchent que l'ennui. C'est peut-être la première leçon, d'ailleurs, que délivre Yvon Guettaz à ses lecteurs. On peut, oui, s'amuser en travaillant, on peut s'amuser en créant, et en créant des entreprises, et on peut s'amuser certainement aussi à écrire des livres sur l'entreprise et l'économie. Est-ce bien cela, Yvon Guettaz? Vous êtes-vous amusé en écrivant ce livre, bien qu'il traite de questions extrêmement sérieuses?
Merci de cette sympathique présentation. On pourrait rappeler aussi que les auditeurs le savent, je suis surtout membre de l'Académie des sciences morales et politiques et j'en suis même le doyen d'élection puisque je suis à l'Académie depuis 29 ans, ce qui est beaucoup. Et je m'y plais beaucoup car c'est un milieu extraordinaire de rencontres extraordinaires avec des gens de haute qualité.
Je suis d'autant plus impardonnable que vous y consacrez un chapitre.
C'est un chapitre amusant d'ailleurs entre l'épée et le bicorne et où j'utilise ce que vous venez de dire, ces fameuses gataseries, ces gataseries. Nous devons peut-être donner quelques éclaircissements. Ces deux mots peuvent paraître prétentieux avec mon nom propre. En fait, je les utilise depuis longtemps vis-à-vis des jeunes qui, comme vous le savez, aiment beaucoup l'humour, retiennent mieux l'anecdote que la théorie et qui n'aiment pas beaucoup les amphis et scatellera. Alors, je leur parle beaucoup, ils retiennent ce que je leur dis, ils me le citent souvent. Donc, ils m'avaient aidé un peu dans ces définitions. Les gataseries sont tout simplement des aphorismes de forme pour faire rire. Le suffixe « ri » indique qu'il faut rire, n'est-ce pas? Et alors que le gatazisme, qui lui est masculin, est termine par « isme », vous savez que tous les ismes sont profonds, et on essaye d'être profond. Alors donc, aphorisme de forme et aphorisme de fond. Alors, j'ai mélangé dans ce livre nouveau, Économiquement Vôtre, j'ai essayé une performance un petit peu difficile. Car effectivement, certains amis m'ont dit « vous trompez le lecteur ». Bon, je n'ai pas voulu tromper le lecteur. On a même dit que c'était même une tromperie savamment menée. Je crois qu'on exagère. À la vérité, le livre, quand on le parcourt, commence plus par des gataseries et se termine par des gatasismes. Si vous voulez, l'importance sociétale, morale, éthique, philosophique, humaine, se révèle à la fin. Alors au début, D'ailleurs, je n'ai pas hésité. Les premiers chapitres, les 60 premières pages, je les ai intitulés « Quelques facéties sur l'entreprise ». Ce ne sont pas tellement des facéties. Je sais bien que mon éditeur a retenu dans le quatrième de couverture le mot « facétieux » pour définir ce livre. S'il n'était que ça, je serais déçu. En fait, il est peut-être facétieux, mais il n'est pas que ça. Alors, dans cette partie dite facétieuse, en fait, je donne beaucoup de conseils importants aux entreprises, aux entrepreneurs, et qui vont dans le sens que vous indiquiez tout à l'heure, dans le sens, pour résumer peut-être un peu ce que vous disiez, dans le sens de l'action optimiste. L'action est toujours optimiste. Pour être un homme d'action, quand vous créez une entreprise, j'avais repris, vous savez, la formule stupide et en l'affirmant qu'il est indispensable d'espérer pour entreprendre. J'ai jamais vu quelqu'un qui entreprenait s'il n'espérait pas réussir. On n'entreprend pas pour échouer. Donc il est indispensable, contrairement à ce qui a été dit, soi-disant par Guillaume d'Orange, encore que nous n'ayons jamais trouvé la paternité de Guillaume d'Orange dans cette belle phrase fausse. Donc l'optimisme est obligatoire. Si vous voulez, il y a les gens tournés vers le passé. J'ai remarqué dans ma longue vie que les nostalgiques du passé, ceux qui regrettent les diligences et qui regrettent aussi la sublime odeur du crottin de cheval, eh bien ces nostalgiques du passé ne sont pas réalistes. Ils font semblant d'oublier que les châteaux de leurs rêves sont terriblement mauvais et que vivre dans les ruelles du Moyen-Âge, ce n'est pas non plus très confortable. Donc aujourd'hui, on vit de façon beaucoup plus confortable et je pense, je dirais même aussi plus harmonieuse qu'on ne le dit. Donc je crois qu'il faut vivre vers l'avenir, dans l'avenir et non pas dans le passé. Et quand on s'adresse aux jeunes comme moi, puisque ma clientèle, mon auditoire, ce sont les jeunes, uniquement les jeunes, puisque j'ai créé cette association Jeunesse et Entreprise il y a déjà 32 ans, et nous tentons de rapprocher les jeunes des entreprises et symétriquement les entreprises des jeunes. Pourquoi ? Pour leur montrer les métiers de demain, les former à ces métiers de demain et in fine leur trouver un emploi. Et c'est le but final du livre. On en avait déjà parlé l'année dernière à ce micro très longuement. Je le dis rapidement maintenant avant de revenir sur les gâtageries. C'est que l'emploi, c'est le but final de ce livre, c'est la maxime nationale que je propose aux parlementaires et au président de la République, sans beaucoup de succès jusqu'à maintenant, mais j'ai lancé cette formule non pas hier ni avant-hier, mais en mars 86 dans Le Monde. Je l'ai reprise 50 fois depuis, je crois que c'est une maxime qui mérite réflexion et action. L'emploi, ça devrait être l'impératif catégorique, non seulement de la France, mais de tous les pays du monde, car c'est vrai que la plupart des gens du monde pensent plus à détruire des emplois au nom de la productivité, n'est-ce pas ? Jean Fourassier, qui a été académicien à l'Académie des sciences morales et politiques avant moi, et que je connaissais bien, pour qui j'avais beaucoup d'admiration, quand il a lancé la productivité du travail, n'est-ce pas ? Il avait bien mis au numérateur la valeur ajoutée, mais au dénominateur, il avait mis ce qu'il appelait à l'époque les heures travaillées, c'est-à-dire l'emploi. Donc, la meilleure façon d'augmenter la productivité dans le monde, c'est de diminuer les emplois et automatiquement, la productivité augmente. Donc, tout le monde pleure sur les emplois, mais tout le monde cherche à les diminuer, il n'y a donc un problème. Alors, ça, c'est la deuxième partie.
À l'inverse, dans l'ouvrage, et c'est certainement tiré de votre expérience de chef d'entreprise, on comprend à quel point l'entreprise est, elle, une aventure humaine, qui s'appuie, vous le dites notamment, bien évidemment sur des talents, mais aussi la capacité à entraîner, à développer ses talents. Et puisque vous parliez des jeunes, je voudrais revenir sur l'une des gâtageries qui est consacrée au goût du risque. Parce que généralement, quand on pense emploi des jeunes, on se dit, tiens, il faudrait aider les emplois des jeunes, voire faire des emplois aidés pour les jeunes. Votre façon d'aborder le problème est très différente. C'est de rappeler, notamment aux jeunes, que les vertus nécessaires à la création d'entreprises ressemblent beaucoup aux vertus cultivées par les jeunes, notamment le goût du risque.
Tout à fait, le goût du risque, n'est-ce pas ? Moi, depuis longtemps, vous le savez, je pousse les jeunes à la création d'entreprises. J'ai même encore une formule qui va vous plaire, n'est-ce pas ? Après les avoir poussé à créer des entreprises, et maintenant, on a gagné la première révolution, c'est-à-dire le nombre d'entreprises créées en France est très honorable, mais il nous reste une deuxième révolution à faire, c'était que ces entreprises ne restent pas naines, mais grandissent. Et nous étions très mal placés dans le monde pour la croissance de ces nouvelles entreprises. Alors j'ai lancé cette formule choc, qui plaît beaucoup, semble-t-il. Start, c'est bien, up, c'est mieux. Dans start-up, il faut avoir l'imagination créatrice de start. C'est indispensable et tout le monde ne l'a pas, c'est une qualité d'émission et non pas une qualité de simple réception. Et puis hop, c'est mieux. Pourquoi ? C'est-à-dire que avoir trouvé le créneau porteur sur un marché mondial, c'est très bien, mais après il faut développer l'entreprise. Or, comme disait Gilles Ligné, qui a été le pape du management il y a 30 ou 40 ans, les qualités de gestion de l'entreprise naissante pour la faire grandir sont des qualités fort différentes des qualités de recherche d'un produit nouveau. Alors il y a des chapitres...
C'est intéressant, je voudrais que vous développiez cette différence entre l'intelligence de réception et l'intelligence d'émission.
D'émission, ah voilà. Oui, alors là c'est un de mes grands thèmes, vous savez, j'ai découvert depuis longtemps que les élites, puisqu'elles se prétendent qu'elles le sont, les élites ont deux sortes de qualités génétiques, n'est-ce pas ? Les qualités de réception, c'est, ne sont que quatre, contrairement à ce que tout le monde croit, et chez les bons élèves de la classe, c'est la compréhension qu'au XIXe siècle on appelait l'intelligence, la compréhension rapide, c'est la faculté d'analyse, c'est la faculté de synthèse, et c'est surtout la mémoire dont on ne parle jamais, car on a longtemps cru que c'était une qualité mineure, alors qu'elle est majeure. Mais ces quatre qualités vous permettent d'avoir des diplômes, d'être un expert, d'être une bibliothèque, un savant, etc. Mais dans l'entreprise, quand il faut lancer une entreprise, trouver un produit, développer ses produits, conduire des hommes, n'est-ce pas ? Et il y a un chapitre qui s'appelle, dans mes premières parties, « Le talent de la gestion, c'est la gestion des talents ». Ça mérite réflexion, ça aussi. Donc ça, c'est des qualités d'émission. Alors, quelles sont ces qualités d'émission ? Elles sont innombrables. C'est toutes celles qu'on appelait autrefois les qualités d'homme, les qualités de caractère, les qualités de tempérament. Mais en tête, il y a l'imagination créatrice, qui est plus rare qu'on croit. Il y a une autre qualité très importante pour les jeunes que je trouve beaucoup, c'est la ténacité, être tenace dans son travail, c'est le rapport avec les autres, c'est le travail en équipe, c'est même le charisme, c'est l'enthousiasme, c'est toutes ces qualités d'homme sont indispensables pour créer une entreprise et la développer. Dans l'entreprise, nous avons moins besoin de qualité de réception, c'est-à-dire de diplômes prestigieux, que de qualité d'émission. Et c'est l'erreur qui est souvent faite. On prend des super diplômés pour lesquels j'ai une haute estime, pensant qu'ils auront les qualités d'émission. Alors, disons la vérité, j'ai longtemps cru, j'ai même écrit, que c'était souvent, on disait que c'était peu compatible, la vérité. Soyons francs, j'ai rencontré dans ma longue vie de nombreux cas de personnalités qui avaient à la fois les qualités de réception et les qualités d'émission. Même à l'Académie des sciences morales et politiques, mon ami Maurice Allais, prix Nobel d'économie, était un génie de la réception, puisqu'il était ingénieur du corps des mines, entré premier partout et sorti premier partout, et en même temps, il avait une imagination créatrice absolument débordante, il me demandait des conseils en permanence, que j'étais d'ailleurs incapable de lui donner, mais ça a été mon grand ami, et j'ai pour lui une admiration extraordinaire.
Vous semblez toutefois déplorer, alors évidemment c'est formidable, si on cumule à la fois les qualités de réception et d'émission, comme vous le dites, on est doublement surdoué. Toutefois, l'organisation de la société et la sélection des élites en France tend quand même, et vous semblez le regretter, à faire primer les qualités de réception sur les qualités d'émission.
C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Si vous voulez, sous la Troisième République, les élites de la France n'étaient que des diplômés. Aujourd'hui, on a découvert que des non-diplômés étaient géniaux. Et la réussite de chefs d'entreprise, Mantelet, Niel et autres Mullier, Fayard, il faut en citer des quelques dizaines, des gens extraordinaires qui n'avaient pas fait d'études pour des raisons familiales ou financières ou autres, et qui se sont rattrapés en travaillant comme des fous. En ce moment, aujourd'hui, tout le monde me parle. Parle d'Aznavour, ben voilà le prototype d'un homme qui s'est fait lui-même par le travail extraordinaire qu'il a accompli toute sa vie.
L'entreprise, on le perçoit à la lecture de votre ouvrage, est finalement, une bonne fois pour toutes, le principal ascenseur social à disposition.
Mais absolument, absolument. C'est pour ça que créer son entreprise, on peut le faire sans diplôme. Il suffit d'avoir une bonne idée. Et alors, vous savez, j'ai un chapitre important dans le livre, ce sont les vive les inégalités TT. Alors, c'est le mystère. Ces inégalités TT, ce sont les inégalités dues uniquement au talent et au travail. On revient encore à Aznavour. Voyez-vous, le talent et le travail. Et alors, vive ces inégalités. Par contre, je condamne, comme tout le monde, les autres inégalités dues à la fraude, à la rente abusive, tout ce qu'on voudra. Mais je suis quand même surpris que les hommes politiques, aujourd'hui, prononcent 100 fois le mot inégalité, qui est très politique, très porteur, paraît-il, pour 10 fois seulement le mot chômage, qui est assez dramatique, et pour une fois seulement le mot emploi, qui est divin. Une fois. Le mot emploi n'est pas assez employé. Il faut absolument qu'on se batte pour employer le mot emploi. Et c'est pour ça que je veux le diffuser, l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et le jour où tout le monde aura compris que cet emploi est prioritaire et qu'il ne s'agit pas de uniquement le diminuer pour améliorer la productivité, on aura compris que le rôle humain, je ne dis même pas social, je dis humain, que nous devons mener à la surface de cette terre. On ne peut pas dire il n'est pas qualifié, il n'est pas diplômé, il est bon pour le chômage. C'est qui était la théorie de la France. La théorie de la France était contre les emplois mal payés. Le SMIC, pavé de bonnes intentions, a dit on doit payer les gens à tel niveau. Et si la non-qualification de l'individu impose le salaire infini, monsieur, vous êtes allé donc tout de suite au chômage, où vous serez indemnisé le moins mal possible, mais vous n'êtes nous ne sommes pas pour les petits emplois. C'est contraire à la dignité de l'homme. C'est complètement faux. La dignité de l'homme, c'est d'avoir un emploi, même un petit emploi. Les Américains ont compris ça depuis longtemps. Et la grand-mère américaine est toute contente de donner un petit pourboire à l'étudiant et qui lui met ses courses dans le coffre de sa voiture. Et l'étudiant le reçoit avec un grand plaisir, beaucoup mieux qu'une aumône d'ailleurs. Il y a également un chapitre dans le livre sur ce sujet. Tout salaire mérite travail. Une inversion, vous le remarquez, assez astucieuse. Et c'est vrai, c'est pour éviter que les jeunes soient subventionnés sans travailler, ce qui est dramatique
pour eux. C'est un piège.
Le piège.
Oui, dans l'ensemble de votre réflexion, on sent que le livre fonctionne comme une sorte d'entonnoir où on peut évoquer toute une série de problèmes, mais au final, à chaque fois, on revient à l'humain que vous distinguez du social. Le social, en France, semble-t-il, ce terme en tout cas, a pris la place de l'humain, que ce soit dans l'entreprise ou même dans des discours plus globaux sur la société. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos réflexions sur le sujet?
Voilà, alors écoutez, le 19e siècle a vu éclore l'industrie qui ne s'est pas beaucoup occupée de l'homme. L'industrie recherchait des produits, recherchait la façon de les fabriquer, recherchait le meilleur prix et la meilleure qualité. L'homme a sûrement été un peu oublié, il faut le reconnaître. Et pourquoi ne pas le reconnaître ? Et alors, en 1884, on a très bien compris la loi Waldeck-Rousseau, que tombée à un an près à la publication de Germinal, qui est sortie en 1885, comme vous le savez. Et à l'époque, l'ouvrier, appelé comme ça, était généralement analphabète. Et là, des gens courageux, il faut le reconnaître, se sont lancés dans la défense des ouvriers analphabètes qui étaient absolument incapables de se défendre eux-mêmes contre des chefs d'entreprise qui, je le répète, n'étaient pas très soucieux de l'homme, des conditions de travail de l'homme. Et puis les choses ont beaucoup changé. Alors l'humain, nous sommes passés de l'humain au social, qui n'est que l'humain massifié. Et puis, ces groupements d'humains, ces groupements de sociaux, ont débouché sur le syndical. Syndicats qui ont été très utiles au 19e, très très utiles au 19e, et puis planqués et financés au 20e, et on est passé donc de social au syndical.
Vous avez des mots très durs, vous dites qu'ils sont passés de défenseurs à profiteurs.
Absolument. Absolument, moi je prétends que les syndicats qui ont été indispensables, utiles, dévoués, courageux au 19e, se sont installés dans le luxe, la subvention au 20e. Je dis même qu'ils ont été sanctifiés par leur rôle de défenseur de la veuve et de l'orphelin. C'est pour ça que dans le livre j'appelle les syndicats en deux mots. Et j'indique dans le livre qu'ils sont aujourd'hui désauréolés. Alors, c'est un petit peu méchant, mais je suis inspiré d'une nouvelle de Marcel Aimé, et que j'adorais quand j'étais étudiant, et qui avait fait une nouvelle qui s'appelait La Grâce. Et dans La Grâce de Marcel Aimé, il y a un homme qu'il appelait, je crois, Dupérier, et ce Dupérier avait toutes les vertus de la terre. Et pour le récompenser, Dieu lui avait mis une auréole. Alors ce pauvre Dupérier, il ne pouvait pas vivre dans la vie courante avec une auréole sur la tête. Et alors il a commencé à faire tout ce qu'il fallait pour faire disparaître l'auréole. Alors il avait choisi les péchés capitaux. Et alors il a pris les péchés capitaux les uns après les autres, et l'auréole était toujours là. On n'est pas arrivé à lui faire disparaître son auréole. Et la nouvelle de Marcel Aimé se termine. Dupérier est proxénète au coin de la rue, surveille ses protégés, en remerciant Dieu de la parfaite gratuité de ses dons. Bon, tout ceci, c'est une plaisanterie. Alors, je dis simplement que maintenant, en un mot, sans être trop méchant avec les syndicats qui sont un petit peu, comme vous l'avez dit, comme nous l'avons dit, profiteurs aujourd'hui, et planqués, et subventionnés, et qu'il faut absolument ramener à la raison, je crois surtout qu'il faut repasser dans une démarche inverse. Aujourd'hui, ce n'est pas les syndicats qui défendent les mieux les salariés. C'est dans les salariés qui ont remarquablement évolué dans la compréhension économique, en particulier dans la compréhension de leur entreprise. Je suis étonné, moi, chaque fois que je vais dans une des usines de notre société radiale, de constater combien nos salariés sont compétents sur la marche de l'entreprise. Et il nous demande à mon fils Pierre, qui est le président du directoire, à Yvon Gattaz, qui est le président du conseil de surveillance, et pourquoi ça ne se développe pas plus les affaires à Bangalore en Inde, alors que ça se développe beaucoup plus à Shanghai en Chine. Et on leur répond, on leur explique quel est le marché, les conditions du marché, etc. Donc aujourd'hui, les salariés français ont connu une évolution dans la compréhension économique qui est proprement fabuleuse. Ils n'ont plus besoin d'être défendus comme en 1884, c'est sûr. Donc, ces syndicats qui ont été nécessaires, indispensables et courageux au 19e sont devenus moins utiles et même aujourd'hui inutiles. Et ce dialogue humain qui est passé au dialogue social puis au dialogue syndical, le social étant l'humain massifié et le syndical étant le social militarisé, il faut qu'aujourd'hui nous fassions la démarche inverse. Il va falloir qu'on redescende de la convention très collective
mais c'est le cas,
à des conventions de moins en moins collectives.
Mais c'est le cas, c'est le mouvement actuel, non ?
humain dans l'entreprise ou dans les bureaux.
Mais c'est à peu près le mouvement actuel des différentes lois qui réorganisent le dialogue social. Je pense que notamment le CSE qui remplace les anciennes instances va plutôt dans le sens de la
tout
possibilité d'accords dérogatoires.
La tendance est amorcée.
Voilà.
La tendance est amorcée. On revient vers l'humain parce que l'homme a changé et qu'il sait dialoguer, il sait se défendre. Quand vous demandez à un salarié, un agent d'exécution des usines, prend radial parce que c'est l'entreprise que connaît le mieux, et vous lui dites quel est qui vous défend le mieux vos intérêts, ben il me dit c'est de discuter avec mon chef, de mon salaire, de mes conditions de travail, et de mon temps de travail, etc. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc on va vers une individualisation. Qui est normal. Tout le monde veut personnaliser son costume, sa voiture et pourquoi pas son travail.
Oui, mais d'une certaine façon, est-ce qu'on pourrait dire qu'à des organisations sur un modèle taylorien, correspondait un syndicat sur un modèle taylorien, et que l'entreprise taylorienne ayant quand même peu ou prou disparu ou s'étant réorganisée, eh bien le monde syndical, le dialogue social, peut-être pas le monde syndical justement, mais c'est ce qui lui cause certainement beaucoup de dommages, c'est qu'il continue à vouloir être taylorien dans un monde qui ne l'est plus.
Et dans l'automobile, je parlais d'automobile, si on prend le modèle automobile qui est très puissant en industrie, on peut dire qu'on est passé du Fordisme qui était séquentiel, on est passé au toyotisme, qui est au contraire la personnalisation dans les rapports. Le lean manufacturing, qui est très à la mode actuellement dans nos usines, dans toutes les usines, consiste à faire des groupes de salariés indépendants, s'autogérant entre eux, 10, 12, 15 personnes, et qui remplissent une mission très précise. Et ça marche. Et ça marche très bien. Et entre deux groupes, ils communiquent, ils se passent les pièces à différents stades de fabrication. Ça marche très bien.
Puisque vous avez connu je vais solliciter un petit peu les faits, mais la CFDT d'Edmond Maire, qui était quand même sur des mots d'ordre de type autogestion, co-gestion et autres, en forçant un peu le trait, est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement, c'est l'entreprise qui a réalisé, sous une autre forme, certes,
ce qu'il rêvait de faire.
Ce qu'il rêvait de faire.
Mais c'est pas faux. Mais l'autogestion yougoslave, ça a été un bide épouvantable, rappelez-vous. Tout le monde en parlait, et après il a fallu constater que c'était nul et non avenu, heureusement. Mais effectivement, cette liberté de l'homme, cet individualisme dans l'initiative et les responsabilités, ça marche. Et ça marche très bien. Alors nos jeunes, que nous conseillons toujours, nous leur donnons des conseils dans ce sens-là, on leur explique que les inégalités, lorsqu'elles sont têtées, elles sont très bonnes, nous leur expliquons que l'erreur peut être profitable lorsqu'on sait bien la gérer.
Oui, ça c'est peut-être quelque chose qui va à l'encontre d'une certaine culture française aussi, c'est qu'on est assez punitif quand même, hein.
On refusait l'erreur, on sanctionnait l'erreur, alors qu'en Amérique, on dit « elle est profitable ». Vous vous êtes trompé, mais si vous êtes intelligent, vous allez corriger la prochaine fois. Dans la création d'entreprises dont je me suis moi-même beaucoup occupé, dont je m'occupe encore maintenant beaucoup, combien de fois nous avons des jeunes qui se trompent sur le marché ? Ils font une nouveauté, une innovation, une appli, quand c'est de l'Internet, ça ne marche pas. Je me suis trompé, il aurait fallu que je fasse ça. Et ils reprennent l'idée d'à côté. Et souvent, la deuxième marche, alors ces jeunes dont je m'occupe beaucoup, on a trouvé que c'était des générations, vous savez. Alors, les psys avaient trouvé la génération X, difficile à comprendre, Y, inconnu, Z, encore plus inconnu, millénial, avec des... Tout ça me paraît totalement dépassé. Nous qui étudions les jeunes, qui les conseillons dans la formation et dans l'action, donc qui pensons bien les connaître sur le terrain, ben nous constatons quoi ? C'est que depuis que nous existons à Jeunesse Entreprise depuis 32 ans, il n'y a qu'une seule génération que nous avons appelée grand A, adaptable. Car ce qui change, ce n'est pas les jeunes qui changent. C'est l'environnement. On est dans un environnement qui change de plus en plus vite. Et la qualité extraordinaire de ces jeunes, la constance de ces jeunes, c'est qu'ils s'adaptent avec une merveilleuse adaptabilité que les anciens n'ont pas. Et c'est pour ça que nous les appelons grand A, la génération adaptable, qui est la même depuis la dernière guerre. Les 68 arts, c'était la génération A, les créateurs d'emprise de la génération A, même ceux qui rouspètent dans les rues, c'est génération A, ils s'adaptent ou ils tentent de s'adapter à un environnement qui, quelquefois, les surprend, nous surprend, nous toujours. Et rappelez-vous, quand le numérique est arrivé, les jeunes nous ont dit, nous, on n'en veut pas. Ne vous comprenez rien à base de mathématiques. Ah, tiens, ça nous a beaucoup surpris. Enfin, certains jeunes nous ont dit ça. Et puis, quand le numérique est arrivé, qu'est-ce qui s'est le mieux adapté au numérique ? Mais les jeunes, ce sont les plus jeunes qui apprennent aux moins jeunes, et surtout aux seniors comme nous, le numérique. Alors, c'est une révolution qui s'est faite spontanément parce qu'ils sont adaptables.
Alors dans ce rythme des changements, la question est un peu provocatrice, mais des actualités, je pense qu'on ne peut pas l'éviter. Est-ce que vous pensez, comme d'aucuns, que les Gaulois seraient réfractaires au changement ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Alors ça, c'est une fausse idée. Les Gaulois sont difficiles à diriger. Ils ne sont pas réfractaires au changement du tout. Ils n'aiment pas marcher au pas d'une musique émise par un siège social. Ce sont plutôt des réflexes d'indépendantistes. Or, l'indépendance d'esprit est tout à fait louable jusqu'à un certain point. Il y a également dans le livre « Économiquement vôtre », vous trouvez un chapitre qui s'appelle « Le français est meilleur, mais les français sont moins bons ». Et je compare les français aux allemands. Alors on est très fiers de dire « nous ». Le français, ben, il est plus intelligent que l'allemand, il comprend plus vite, il s'adapte plus vite, il a une intelligence plus instantanée. Ce que peut-être vous voyez encore, ça peut se discuter. Mais ce qui est certain, c'est que les Allemands, quand on les groupe dans une usine, dans une société, dans un ensemble, ils suivent les directives, ils suivent le règlement, ils suivent l'intérêt collectif. Ils ont un sens plus aigu de l'intérêt collectif. Le français indépendantiste comprend mal l'intérêt qui a à se coaliser, à condition qu'on respecte un certain nombre de règles de toute coalition. Et c'est ça qui nous échappe un peu. Et là, on a des progrès à faire. Je crois honnêtement qu'on est en train de les faire. Je crois que le français est en train de mûrir. On n'est pas que des indépendantistes, ce qui est très bon parce qu'on a...
Oui, ça peut être un moteur aussi.
On est très éveillé, les découvertes, on est formidables, la création de nouvelles entreprises. Mais vous avez remarqué, si c'est la France qui trouve le plus de produits nouveaux, c'est pas la France qui développe le plus de produits nouveaux.
Oui, on revient au problème que vous disiez, des starts. Il y en a beaucoup, mais voilà. Des up, il y en a moins. Et mais oui. Ça ne dépendait pas que du caractère national, il y a aussi cet environnement. Vous parlez aussi beaucoup d'un environnement légal et réglementaire qui ne favorise pas la croissance des entreprises, et notamment leur caractère du coup collectif et créateur d'emplois, parce que si on reste petit, on est tranquille.
La France a malheureusement d'innombrables freins à la croissance, et on a de la peine à lever des freins psychologiques qui sont partiellement levés maintenant, il faut le reconnaître. Des freins administratifs qui sont partiellement levés aussi. Il reste encore d'énormes freins fiscaux et des freins sociaux. On a une rigidité sociale qui est extraordinaire, et une fiscalité qui est la plus lourde d'Europe, vous le savez, et tout ceci n'est pas bon pour la création et surtout le développement de nouvelles entreprises, ce qui ferait la force de la France, même pour l'emploi. Et il est dit à plusieurs reprises dans Économiquement Vôtre, je dis à plusieurs reprises, la multiplication des emplois passera par la multiplication des employeurs. Une évidence. Donc, il faut semer des employeurs. Semons des graines d'employeurs, développons les employeurs, et les emplois arriveront en deuxième stade. Et on trouve beaucoup de formules de ce genre dans ce livre. Vous voyez, c'est un livre qui comporte énormément de rubriques un peu diverses à l'attention des jeunes, à l'attention des enseignants, bien sûr à l'attention des entreprises et des entrepreneurs, mais même à l'attention de l'État.
Oui, à l'attention de tous les décideurs.
Il y a un chapitre pour l'État, par exemple, ça, c'est amusant, mais je prône la touffe-le-pan. Qu'est-ce que la touffe-le-pan ? C'est une inversion, une gâtagerie, bien sûr. C'est l'inverse de la pantoufle. La pantoufle d'un haut fonctionnaire consiste à dire qu'un haut fonctionnaire est d'abord haut fonctionnaire et terrorise les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Et puis, quand il les a terrorisés pendant 10 ou 15 ans, il est lui-même chef d'entreprise. Et il est furieux quand c'est de nouveaux jeunes qui viennent d'arriver et qu'il terrorise. Eh bien, il faudrait inverser tout simplement. Il faudrait qu'à la sortie de l'ENA, si on maintient l'ENA comme école d'administration, qu'on les envoie tout de suite, faire des stages importants, mais pas des stages de 8 jours, faire des stages de 5 ans, voire 10 ans en entreprise, qui assument des fonctions qui peuvent être importantes. Ils sont intelligents et travailleurs. Pourquoi ils n'accéderaient pas assez rapidement à des postes de direction ? Je ne suis pas contre.
S'ils ont quelques qualités d'émission, oui.
Voilà. Ah oui, sûrement. Et puis après, à ce moment-là, on pourrait pratiquer la touffe-le-pan, c'est-à-dire l'inverse de la pantoufle. On les remettrait dans l'administration où, compte tenu de leurs études et surtout de leur expérience sur le terrain, ils pourraient prendre des décisions opportunes en faveur de l'entreprise.
Écoutez, oui. En tout cas, ça aurait le mérite de participer, mais on sent que c'est l'une de vos volontés, à une forme de réconciliation générale entre les mondes, entre des mondes qui s'ignorent trop souvent.
Ça, c'est vrai. Et on a longtemps dit que les gens s'ignorent, mais vous savez, cette ignorance des milieux, c'est assez facile à compenser. Rappelez-vous, en 86, je suis, vous savez, moi-même, fils et petit-fils d'enseignants. Peu de gens le savent. Je devais donc être professeur, comme l'avaient dit ma mère et mon père. Bon, mais je ne l'ai pas été. Je suis donc un enseignant raté. Et par hasard, j'ai fait une école d'ingénieur. Par hasard, ou plutôt par volonté, j'ai créé une entreprise. Et je suis devenu industriel et fanatique de l'industrie. Bon, ceci étant dit, en 86, lorsque j'étais président du CNPF, aujourd'hui MEDEF, nous avons eu l'idée, j'ai eu l'idée, de faire une grande manifestation au Zénith, un petit peu de façon tout à fait insolite, avec un petit peu de vin rouge et de saucisson, en mélangeant un tiers de chefs d'entreprise, un tiers d'enseignants et un tiers de jeunes. Cocktail explosif de milieux qui étaient réputés ne pas se connaître, et on sait même que c'était des ennemis, au moins des adversaires. Mais ça n'était pas vrai. C'était simplement la méconnaissance. Mais il y a des moments où la méconnaissance de l'autre est grave, aussi grave, presque aussi grave que l'hostilité. Et qu'est-ce qui s'est passé ce 5 septembre 1986 ? Nous avons réuni quelques milliers de ces trois catégories qui ont pactisé, fraternisé, dit, mais comment ça se fait qu'on ne se connaissait pas, qu'on ne s'aime pas ? Et c'est comme ça qu'est née mon association Jeunesse et Entreprise, car cette manifestation avait pour nom Jeunesse et Entreprise. Et depuis, nous nous battons pour former des jeunes qui deviendront entrepreneurs, qui aiment l'entreprise et qui aiment également les enseignants qui, je dois le dire, ont beaucoup évolué depuis cette période. L'enseignant qui ignorait superbement l'entreprise, aujourd'hui, souhaite la connaître. Il ne la connaît pas encore suffisamment, mais les enseignants sont pleins de bonne volonté et je tiens à le dire ici.
On sent que dans l'ensemble de l'ouvrage, vous avez dit, beaucoup de recommandations pour des décideurs ou finalement pour tout citoyen éclairé, toute personne qui est, et nous le sommes tous, confrontés au monde de l'économie, de l'emploi et des affaires, par goût, par nécessité. Il y a une double volonté de créer les conditions matérielles nécessaires pour l'éclosion d'une société où l'emploi soit remis au cœur. Mais aussi beaucoup de... Et c'est là où les gâtaseries prennent tout leur sens, une volonté de changement d'état d'esprit.
C'est vrai.
À coup d'électrochoc. C'est-à-dire que ces formules-là nous obligent à réobserver une réalité que l'on croyait connaître avec un œil ou un angle de vue différent. Dans cette entreprise-là, vous avez notamment pris pour cible, et certainement à très juste titre, l'ambiance générale quelque peu sceptique, morose, que l'on retrouve dans de nombreux secteurs de la société. C'est-à-dire, un côté, on n'y arrivera pas, à quoi bon, oui. Un plaisir de se morfondre sur la grandeur passée de la France, sur, sur les difficultés, plutôt que sur les solutions.
C'est vrai.
Où en est-on de ce combat-là, à votre avis ?
Alors, je crois qu'aujourd'hui, ces nostalgiques du passé, qui sont plutôt pessimistes, sont en train d'être de moins en moins nombreux, et j'ai l'impression, et je crois que c'est vrai, que les optimistes, ceux qui voient l'avenir, qui regardent l'avenir, qui s'occupent des jeunes, sont en train de devenir de plus en plus nombreux. On s'est aperçu, on a enfin constaté que ces jeunes n'étaient pas que des 68ards stupides et râleurs et jeteurs de pavés. Bon, les 68ards, ça a été des paumés qui sont en général rattrapés aux branches. Et non, mais moi, je n'en veux même pas. Parce que je connais plein de 68ards reconvertis en chefs d'entreprise formidables. Bon. Si on n'est pas révolutionnaire à 20 ans, on ne sera jamais.
Oui, ce que vous expliquez, ça correspond au 68, dans vos yeux, ça correspond plus à une sorte de cycle de la vie, où dans un premier temps, on dépense ce que l'on n'a pas, mais la formule est certainement l'un de vos amis 68ards devenu chef d'entreprise, mais elle est savoureuse. Il disait, c'est normal, quand on est jeune, on dépense ce que l'on n'a pas forcément, puisqu'on n'est pas encore accompli dans la vie, et ensuite, on se rattrape en amassant des ressources pour que la génération suivante puisse la délipider avant d'avoir. Et que donc ce serait une sorte de cycle normal.
J'explique ça.
Il y a probablement une grande partie de vrai dans cette formule.
J'explique ça dans Économiquement Votre, je l'explique en détail, c'est vrai. Donc je pardonne aux agités de la jeunesse, on leur pardonne, et bon. Mais il faut qu'ils s'agissent avant et qu'ils deviennent créateurs et créatifs, n'est-ce pas ? Il faut, n'est-ce pas ? On a un rôle à jouer, et lorsqu'on devient vieux, on a également un rôle à jouer. C'est la TCA. La TCA, que je prône dans mon livre également, c'est la transmission des connaissances acquises. Il y a un certain âge, on ne peut plus travailler, on est fatigué, on est retraité. Tout ceci est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être inactif et subventionné par la société. On peut jouer encore un rôle important. Et je trouve, je dis à tous les retraités, tous, vous avez acquis dans votre vie professionnelle des connaissances irremplaçables. Eh bien, essayez de les transmettre. Le pire, c'est de les emporter dans votre tombe sans que ça serve à rien. Il y a donc un devoir de TCA, de transmission des connaissances acquises, et je pousse tous les seniors à le faire. J'avais fait un livre, vous vous rappelez, qui s'appelait « La seconde vie », où j'expliquais que les retraités avaient une seconde vie qui pouvait être active et qui les maintiendrait d'ailleurs en bonne santé. Regardez, pour revenir encore à Slavour, il était en santé extraordinaire et il ne devait cette santé qu'au fait qu'il était suroccupé. Comme il disait, il travaillait 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Eh bien,
je suis bien d'accord avec vous, ce serait mieux si les seniors pouvaient faire moins de sudoku et se consacrer davantage à la transmission, tout le monde s'en sentirait mieux.
Bravo, bravo. Voilà, c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Donc il y a des conseils, voyez-vous, dans ce livre. C'est beaucoup des conseils pour les jeunes, bien sûr, mais à la fin, j'ai voulu traiter un peu de ce problème des DDC, des derniers de cordée, hein, qui mérite également qu'on s'occupe d'eux, car ils ont un rôle à jouer. Et je parle de ce fameux bénévolat qui est à la mode maintenant. Et nous, par exemple, à Jeunesse et Entreprise, nous accueillons beaucoup de bénévoles. On leur demande deux choses, simplement. Ni diplôme, ni rien. Avez-vous un peu de temps ? Et vous intéressez-vous aux jeunes, quelque façon que ce soit. Ceux qui répondent, mais oui, j'ai un peu de temps, je m'intéresse, venez chez nous, il y a du feu. Et on les accueille à Jeunesse Entreprise. Et ce bénévolat est une nouvelle profession. Et je dis quelque part dans le livre, la cause sera gagnée lorsque un cadre retraité sera tout fier de faire imprimer une carte de visite, Jean Dupont bénévole. voilà un métier qui mérite d'être valorisé et d'être reconnu, en partie par les jeunes, auxquels ces bénévoles pourraient donner beaucoup de conseils utiles.
Mais écoutez, ces conseils, ils peuvent les trouver dans votre ouvrage, car je ne crois pas me tromper en disant que c'est une œuvre de transmission de connaissances et de compétences, mais de transmission aussi d'un état d'esprit. Je l'ai souligné à plusieurs reprises, mais c'est ce qui m'a, moi, frappé. Je laisserai les lecteurs nombreux, j'espère, de l'ouvrage en juger. Économiquement, vôtre est un ouvrage de transmission et... Je me permettrai de terminer sur une conviction personnelle. La transmission est précisément ce qui sera nécessaire pour affronter l'avenir. Il faut s'appuyer sur le passé et l'expérience du passé pour affronter les défis de demain. Et Dieu fasse que tous ensemble nous y parvenions.
On peut terminer par une maxime, si vous permettez, qui est attribuée à Malraux, encore que je pense qu'elle était plutôt apocryphe. Le futur est un présent que nous fait le passé.
Merci beaucoup. Pour que nos auditeurs puissent se plonger dans l'ouvrage, je rappelle rapidement ses références. Économiquement vôtre par Yvon Gattaz aux éditions du Cherche Midi. Merci monsieur.
Merci beaucoup. Thank you.